sete informativo da Rádio
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans sa richesse et dans sa diversité. Et ce soir, pour la rédaction chinoise, c'est Hermine Roumilac.
Mira.
Concernant la situation alarmante de la liberté de la presse à Hong Kong. Thieu Ngun Pham de la rédaction vietnamien.
Xinjiang.
Parce que le Vietnam fait face à sa quatrième vague de Covid. Et Matei Vichniak de la rédaction roumaine.
Bonsoir.
Pour parler du parquet européen qui est désormais dirigé par une roumaine. Alors ce qui fait la une de l'actualité aussi cette semaine, c'est la présence du nouveau président américain en Europe. D'abord le G7, puis des visites dans plusieurs pays. Matei Vichniak, le moment le plus attendu de la visite de Joe Biden en Europe, ça a été sa rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Vous avez couvert ce sujet pour la rédaction en langue roumaine. Y a-t-il eu des avancées concrètes ?
Oui, on peut dire déjà que personne n'attendait des déclarations spectaculaires. L'optimisme a été, dans les pays de l'Europe de l'Est, en tout cas très prudent par rapport aux avancées concrètes. Mais la rencontre n'a pas été non plus un épisode diplomatique raté. Les deux leaders ont signé quand même une déclaration commune sur la stabilité stratégique. Ils ont décidé le retour de leur ambassadeur respectif en poste et ils ont lancé aussi un début de dialogue sur la cybersécurité. L'Amérique reste prudente par rapport à la Russie de Poutine et s'interdit toute improvisation. Par exemple, Moscou voulait une conférence de presse commune après la rencontre, mais Washington a refusé. La poignée de main entre Biden et Poutine a été normale, pas très effusive et n'a pas de signification particulière. Biden ne serre pas les mains de la même manière que Trump, il faut se rappeler. En résumé, Poutine n'a rien cédé, ni sur l'Ukraine, ni sur Navalny, mais le président russe a salué l'atmosphère positive et amicale de la rencontre.
Bonne atmosphère, alors que les relations entre la Russie et les États-Unis se dégradent depuis maintenant plus de deux décennies, Matei.
Elles ont commencé à se dégrader avec la guerre du Kosovo en 1989, après 1999, après le règne de Boris Eltsine, qui fut la période de la cordialité maximale. Quant à Poutine, il a une grande expérience de rencontre avec les présidents américains. En juin 2000, Bill Clinton considérait Poutine comme l'homme capable d'apporter à la fois la prospérité et l'état de droit à la Russie, mais Clinton s'est trompé. La relation entre Poutine et George Walker Bush a également bien commencé avec une rencontre en juin 2001, mais en 2003, Moscou a condamné l'invasion américaine de l'Irak. En 2009, Barack Obama a lancé le concept de « reset » pour relancer les relations avec la Russie, mais les choses se sont envenimées sur fond de crise ukrainienne. Donald Trump a également voulu tendre la main à Poutine, mais l'annexion de la Crimée par la Russie et les accusations d'ingérence dans les élections américaines ont ruiné tous les ponts entre les deux pays.
Quatre présidents américains, ça veut dire que les présidents américains passent alors que Poutine, lui, reste. Matei, vous avez cité des éditorialistes sur votre antenne qui disent que la Russie et l'Amérique ont beaucoup d'intérêts en commun malgré tout.
Par exemple, l'éditorialiste Renaud Girard affirme dans le Figaro qu'au-delà de leur divergence idéologique, les deux présidents ont quand même un objectif commun. Freiner la montée de la Chine. Même si la Chine et la Russie développent actuellement une coopération économique et militaire étroite, les Russes ont des raisons de craindre l'expansion chinoise, surtout en Sibérie. Et les Russes n'oublient pas probablement à quel point la Chine du Mao a été ingrate envers l'Union soviétique. Moscou a aidé à l'époque les Chinois à construire leur industrie lourde, mais Mao a opté ensuite pour une indépendance totale par rapport à Moscou. Il y a aussi cet autre argument qui plaide pour un rapprochement entre la Russie et l'Amérique. Biden, disent les experts, ne peut pas se permettre un combat sur deux fronts à la fois, l'un avec Chine et l'autre avec la Russie.
Thieu Ngun Pham, sur cette rencontre Biden-Poutine, et on reviendra sur la Chine en quelques instants, pourquoi pensez-vous que ce sera difficile de retrouver une relation plus apaisée entre ces deux pays ?
Oui, on a vu que dans les relations américano-russes, il y a eu des hauts et des bas. Mais je crois que désormais, avec Poutine toujours au Kremlin, ce sera difficile de retrouver une sorte d'entente cordiale, comme à l'époque, juste après la fin de la guerre froide. La Russie est désormais considérée comme une menace pour les États-Unis. pas aussi sérieuse que la Chine, mais c'est quand même une menace pour la sécurité nationale de l'Amérique, surtout avec les cyberattaques, surtout avec l'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016. Et il est vrai que malgré son attitude plus ferme par rapport à son prédécesseur Donald Trump, Biden a cherché à établir une relation personnelle pragmatique avec Poutine. Mais j'ai vu que le premier sommet a plutôt marqué une pause dans une succession de crises entre les deux puissances mondiales. Et surtout, Joe Biden a fixé les lignes rouges très claires à Vladimir Poutine en ce qui concerne les attaques informatiques. Mais le président russe a balayé toutes les accusations américaines.
Alors, par définition, il s'agissait d'une tournée européenne pour Joe Biden et donc pas question de la Chine officiellement. Sauf que, il en a finalement été beaucoup question. Vous y faisiez allusion il y a de cela quelques instants, Mathieu Vichniac, et ça a retenu votre attention, Hermine Roumiliac, de la rédaction chinoise, justement.
Officiellement, la Chine n'a pas été invitée dans aucun de ces sommets pendant cette tournée européenne de Biden. Mais son omniprésence, comme vous dites, mes deux collègues viennent d'en parler, fait qu'on a l'impression qu'elle est invitée, mais fantôme. Son ombre plane sur toutes les salles de réunion. D'abord, il y a le sommet de G7 en Angleterre. Dans la déclaration finale, qui est considérée comme le symbole de succès de ce sommet, en effet, malgré les divergences entre les pays participants sur ce sujet, ils ont mis finalement d'accord sur au moins 9 points concernant la Chine. Sans surprise, les dirigeants de G7 ont accusé la Chine de ne pas respecter les droits humains dans la région de Xinjiang, là où vit la minorité ouïghour et de Hong Kong.
Hong Kong, on en reparlera dans quelques minutes.
Ils ont aussi décidé de lancer le plan mondial sur les infrastructures pour aider les pays pauvres et émergents. Ça, c'est officiellement. Mais derrière, on sait que c'est pour contrer l'influence de la nouvelle route de la soie chinoise. Le sommet de G7 a évoqué la situation dans la mer de la Chine, a évoqué, je cite, pour la première fois, l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Donc G7 a demandé aussi une enquête transparente sur l'origine de la pandémie qu'on a soupçonné la fuite accidentelle, d'un laboratoire à Wuhan. Donc tous ces sujets sont sensibles et touchent les lignes rouges de Pékin.
Hermine, ça c'est pour le G7. Hein. Ensuite, il y a eu le sommet de l'OTAN et la Chine a été également, là aussi, une question centrale.
Comme Mathieu a dit tout à l'heure, la Chine est présente partout dans ce sommet. Donc, pour la première fois dans l'histoire de cette alliance transatlantique, la Chine a été évoquée presque au même titre que la Russie. Joe Biden a obtenu que le défi sécuritaire posé par la Chine figure dans la déclaration finale. Donc, le président américain a appelé ses alliés de l'OTAN à affronter ensemble le nouveau défi posé par la Chine et la Russie en même temps. Comme explication, l'OTAN a évoqué que les ambitions déclarées de la Chine et son comportement déterminé représentent le défi systémique pour l'ordre international fondé sur les règles et dans ces domaines revêtant de l'importance pour la sécurité de l'Alliance. Ça, c'est très fort. Hein. Parmi les défis de la Chine, il y a entre autres des coopérations de plus en plus proches entre la Russie et la Chine ces derniers temps, tant sur le plan politique et militaire.
Alors, au bout du compte, diriez-vous qu'on est loin d'être dans une situation de guerre froide ?
Malgré tous ces mots, c'est peut-être le début d'une guerre idéologique, c'est-à-dire la démocratie contre autocratie. Mais une guerre froide telle que le monde a connue n'est plus possible. On entend dans tous les discours. La Chine est une menace, mais on ne cherche pas le conflit, que ce n'est pas une guerre froide. Pourquoi ? Puisque pour affronter les multiples enjeux internationaux actuels, les États-Unis et ses alliés ne peuvent plus avancer sans collaborer avec Pékin, comme la lutte contre le réchauffement climatique, solution face aux menaces nucléaires de l'Iran, de la Corée du Nord. Même pour trouver l'origine de cette pandémie COVID-19, le monde a certainement besoin de la Chine, en espérant que ce soit une Chine moins agressive, plus démocratique et plus ouverte.
Alors la Chine, dans tous les esprits, lors de cette tournée de Joe Biden, fonctionne en Europe. Ben justement, du côté de la Chine, est-ce qu'il y a eu des réactions et lesquelles ?
La Chine se sentait un petit peu menacée par tous ces sommets. Donc, ils n'ont pas mâché leurs mots pour contester. Pékin a accusé l'OTAN d'exagérer la théorie de la menace chinoise. Elle a dénoncé aussi la mentalité de guerre froide et de chercher à créer artificiellement des confrontations. Pour le sommet de G7, la Chine dénonce l'ingérence sur ses affaires internes. On peut écouter l'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Zhao Lijian.
Alors, le porte-parole de la diplomatie chinoise, que dit-il pour l'essentiel ?
L'un des loups combattants de la diplomatie chinoise, donc c'est un peu la langue de bois. Donc il dit, dans la situation actuelle, la communauté internationale doit plus que jamais renforcer la solidarité et la coopération, plutôt que de s'engager dans une politique de bloc fondée sur des cercles restreints, de tracer des lignes de démarcation fondée sur l'idéologie de supprimer les différents modèles de développement et plus est de confronter le bien et le mal et de déplacer les responsabilités. Il a dit à la fin, les États-Unis sont malades, très malades, et le G7 devrait prendre les pouls des États-Unis et prescrire des médicaments. Quant au sommet de Biden et Poutine, Pékin a critiqué l'intention de Biden de vouloir briser ses amitiés très fortes avec Moscou.
Alors, est-ce que ces déclarations pourraient, au bout du compte, avoir un effet quelconque ?
Vous savez que le régime chinois sait très bien utiliser les offensives étrangères pour unir l'opinion publique. Surtout le Parti communiste chinois fête cette année son 100e anniversaire. Donc hors de question de se montrer faible et de baisser les bras. Mais selon un analyste chinois exilé aux États-Unis, M. Chen Pokong, il pourrait tout de même y avoir un effet.
Que vous a dit Chen Pokong ?
Il a dit, bien que le PCC soit maintenant très dur, cela pourrait tout de même intensifier la lutte au sein de ce parti, en particulier au sommet de ce parti, et pourrait éclater en une bataille de lignes. Il existe déjà deux propositions différentes au sommet de la Chine. Donc l'une est plus modérée, plus réformiste, représentée par le premier ministre Li Keqiang, et d'autres lignes dirigées par Xi Jinping est un peu plus dure, plus anti-américain. Ces deux luttes de lignes sont entrelacées avec des luttes de pouvoir qui pourraient potentiellement être catalysées par la pression extérieure. Donc à long terme, cela pourrait aussi être utile, mais que cela fonctionne ou pas, il suggère quand même que la communauté internationale, le G7 et tout ça, doivent élever le ton pour exercer une forte pression sur la Chine et espérons que ça pourrait donner quelque chose à la fin.
Alors, comme toujours et comme souvent dans ces relations internationales, dans ces grands rendez-vous, dans ces rencontres, c'est à Genève que ça se passe. Matej Wiśniewski, l'esprit de Genève, c'est quelque chose d'important ?
Oui, parce que dans le passé, il y a eu d'autres rencontres mémorables à Genève, donc la ville est chargée de symboles positifs. Par exemple, en juillet 1955, deux ans après la mort de Staline, Genève a accueilli un sommet très important au cours duquel le dirigeant russe Nikita Khrushchev s'est entretenu avec les dirigeants français, américains et britanniques de l'époque. C'est alors que la presse a parlé de l'esprit de Genève. À l'époque, on parlait de la paix et de la sécurité dans un climat d'optimisme. Khrushchev s'était emballé, il voulait même la dissolution des deux pactes militaires, le pacte de Varsovie et l'Alliance Atlantique. Une autre rencontre mémorable à Genève a eu lieu en novembre 1985, lorsque le réformateur Mikhail Gorbatchev a rencontré le président américain Ronald Reagan. Il avait un fort vent de changement en Union soviétique et la guerre froide devenait moins glaciale. Cet esprit de Genève a été totalement inexistant le 16 juin. C'est la preuve que le symbolique d'un lieu ne peut pas tout faire. Les changements en Russie sont plutôt négatifs à l'heure actuelle. Ils n'annoncent rien de bon. Les libertés sont restreintes, ainsi que l'ouverture de Moscou vers l'Occident.
Je reviens vers vous, Théung Pham. La rédaction vietnamienne s'est particulièrement intéressée cette semaine à l'occasion de ces rencontres au plan mondial aux annonces d'infrastructures lancées par le G7 sous l'impulsion américaine. Cela pour contrer l'initiative chinoise, on y revient, des nouvelles routes de la soie.
Oui, parce que pour la première fois, le G7 a parlé d'une seule voix face aux ambitions de Pékin, dont cela donne de l'espoir à des pays comme le Vietnam, parce que le Vietnam est toujours sous la menace chinoise. Donc c'est normal que nos auditeurs ont été très intéressés par le plan prénommé Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire le monde en mieux pour contrer l'initiative que Pékin avait lancée en 2013 pour développer les infrastructures terrestres et maritimes pour relier l'Asie, l'Europe, l'Afrique à la Chine. Et les Chinois ont investi des milliards de dollars dans beaucoup de pays pour renforcer leur influence. Mais ces projets ont souvent provoqué pas mal de polémiques et sont critiqués comme des pièges de la dette, sans compter les appels d'offres jugés non transparents, des soupçons de corruption et le non-respect des droits de l'homme.
Alors ce plan lancé par le G7 doit permettre des investissements massifs dans certains de ces pays en développement.
Oui, c'est peut-être avec le Vietnam aussi, parce que le Vietnam, tout en essayant de maintenir une relation apaisée avec Pékin, Hanoï reste très méfiant des projets de nouvelles routes de la soie de la Chine. Donc je pense que le gouvernement vietnamien doit être intéressé par le plan lancé par le G7 pour pouvoir réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.
Et puis il y a un autre projet américain qui devrait intéresser plus le Vietnam, c'est l'OTAN asiatique. Expliquez-nous ce projet.
Oui, parce que nous avons un forum qui s'appelle Dialogue quadrilatéral sur la sécurité, le Quad, donc qui réunit les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. C'est un forum qui a existé depuis longtemps, mais qui a été relancé par Donald Trump. Et l'administration Biden veut transformer ça en mécanisme pour contrecarrer l'influence chinoise dans la région d'Asie-Pacifique. Donc les pays de ce forum ont effectué un certain nombre d'exercices militaires conjoints avec comme scénario un conflit possible avec la Chine en Asie. Donc on dirait que la Chine désormais prend la place de l'Union soviétique face à l'OTAN comme autrefois. Donc ce forum pourrait devenir une sorte de mini-OTAN pour l'Asie-Pacifique. Reste à savoir si les autres pays asiatiques osent prendre le risque de faire partie de ce mini-OTAN.
Voilà pour ce regard croisé sur le voyage officiel de Joe Biden en Europe et sur tous les dossiers que cela implique. On voit bien que ça nous amène jusqu'à l'Asie et la constitution donc d'un possible après l'OTAN, après le pacte de Varsovie, une nouvelle alliance militaire en Asie. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 часов в Париже.
Париж, он идет термометр.
Да-да, все равно, все его сиде.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et comme convenu, revenons à Hong Kong où hier la police a arrêté 5 responsables du journal pro-démocratie dont le titre est Apple Daily. L'existence de ce journal est donc plus jamais menacée, ainsi que plus largement la liberté de la presse dans cette région semi-autonome de la Chine, hein, puisque c'est le régime qu'il faut et le mot qu'il faut employer. Hermine Roumilac de la rédaction chinoise, justement, que s'est-il passé précisément?
Donc jeudi matin, plus de 500 policiers ont pris d'assaut, on peut dire, dans la salle de rédaction de ce journal qui s'appelle Apple Daily, donc le journal de la pomme. Donc en fait, il s'agit de la seconde perquisition au moins d'un an. La dernière fois, c'était au mois d'août l'année dernière, dans cette salle de rédaction de ce quotidien très populaire à Hong Kong. Ce quotidien est aussi dans le viseur des autorités de Hong Kong et de Chine pour ses opinions pro-démocratiques et l'un des journaux qui a soutenu ouvertement les mouvements démocratiques de 2014 et de 2019 à l'image de son patron qui s'appelle Jimmy Lai. Donc les policiers ont arrêté 5 cadres de ce journal. Ils accusent ce journal d'appeler à la sanction contre Hong Kong et les dirigeants chinois, selon la police locale.
Et donc, deux d'entre eux ont été inculpés aujourd'hui?
Inculpés réellement
le rédacteur en chef et le directeur général du journal pour collusion avec un pays étranger.
Donc je vous laisse deviner quel est ce pays, donc ce pays étranger. La police a emporté aussi jeudi matin une trentaine d'ordinateurs de cette salle de rédaction et a également annoncé que 18 millions de dollars de Hong Kong, donc ça fait à peu près 2 millions d'euros d'actifs détenus par ce journal. Et l'argent a été gelé en vertu de la loi sur la sécurité nationale qui a été passée l'année dernière au mois de juin, fin juin, justement pour contrer les mouvements démocratiques de Hong Kong.
Et ces actions sont considérées comme finalement un nouveau coup porté à ce journal du magnat Jimmy Lai, hein, il faut le dire, qui est en détention pour avoir participé en 2019 à certaines manifestations pro-démocratie.
L'image de Jimmy Lai avec les mains attachées derrière le dos a fait tour du monde. Donc lui, il est en détention actuelle. Il en court 6 inculpations. Donc,
et il risque la prison à perpétuité. Tout à fait, ouais. Le sommet du G7 dont on vient de parler a sonné l'alerte quant à la situation à Hong Kong en matière de démocratie.
Hein. Oui, G7 a sonné l'alarme. Mais c'est pour cela qu'il y en a qui soupçonnent que c'est l'une des réponses un peu provocatrices de Pékin à la déclaration du sommet du G7 pour tester ou défier la communauté occidentale. Et les inculpations annoncées disent clairement qu'il s'agit de collusion avec un pays étranger. Donc, je pense que c'est des États-Unis. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne et l'ONU ont tous fermement condamné l'arrestation de ces 5 journalistes, appelant aussi aux autorités du territoire à cesser de s'en prendre aux médias libres et indépendants. Mais on doute que cela puisse être entendu par le gouvernement de Hong Kong qui est devenu le réel marionnette de Pékin.
Et pour aller plus loin, vous avez interviewé la présidente de l'Association des journalistes de Hong Kong.
Madame Mai Yanting nous a expliqué pourquoi ce qui vient de se passer est dangereux pour la liberté de la presse à Hong Kong et il faut que les pays occidentaux se mobilisent pour soutenir Hong Kong et faire la pression sur la Chine.
Elle préside donc l'Association des journalistes de Hong Kong. Que dit-elle?
Elle dit s'il peut être illégal de rapporter l'appel à la sanction d'autres personnes, cela revient à l'interdire au public de parler du droit de sanction. Et lorsqu'on dit qu'il ne peut pas être rapporté, cela signifie qu'il y a une interdiction de parole et le public n'est plus autorisé à parler des sanctions. Et Hong Kong aura de moins en moins d'espace de liberté. Elle dit aussi que selon ses sources anonymes, la police de Hong Kong demandait à Apple Daily de retirer des articles, entre guillemets, problématiques de 2019 à la date d'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, sans passer par les tribunaux compétents. Cela évoque aussi de la censure. Donc elle a dit que Hong Kong ne peut jouir de la liberté de plus en plus proche de celle de la Chine et que cela est de plus en plus loin d'un pays, deux systèmes que le régime chinois a promis. Que rien ne bouge pendant 50 ans.
Alors les Hongkongais vivent probablement également un tournant dans leur histoire avec cette affaire.
Oui, et le sort de ce journal est un des symboles très forts. Après son apparition, il y a presque jour pour jour 20 ans, il fait partie du paysage urbain de Hong Kong, omniprésent sur les stands des journaux pour divertir et informer les lecteurs. Il reflète un peu l'âme de cette société où l'argent est roi, où la légèreté et la fierté ancrées pourtant dans l'âme de tout le monde. Son tendance éditoriale pro-démocratique et libérale le fait sortir du lot, lui donne une image plus noble. Si ce journal disparaît un jour, une partie de l'âme de Hong Kong partirait aussi avec lui et Hong Kong sera plus jamais comme avant et un coup amer va durer très très longtemps.
Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. Longtemps considéré comme un modèle pour sa gestion de la pandémie du Covid-19 avec très peu de victimes, le Vietnam fait actuellement face à une 4e vague. C'est la plus grave depuis l'apparition du coronavirus. Thé Hung Phan de la rédaction vietnamienne, donnez-nous justement une idée de son ampleur.
Donc on a vu que le Vietnam avait géré la crise du Covid-19 avec des quarantaines massives et un traçage minutieux des cas contacts. Donc, ils ont pu contenir l'épidémie pendant les premières vagues. Mais maintenant, des clusters sont repérés dans la moitié de ces provinces et de ces villes, dont le nombre de nouveaux cas par jour ne cesse d'augmenter depuis début avril à cause de la présence du variant Delta. Le Vietnam est un pays qui a beaucoup de frontières avec le Cambodge, avec le Laos, avec la Chine. Donc, c'est difficile de contrôler les entrées illégales. Donc c'est probablement de ce pays que le variant Delta est passé au Vietnam.
Alors le nombre de cas a considérablement augmenté un petit peu partout dans le pays. Quelles sont les provinces les plus touchées ?
Donc les plus touchées sont les provinces du Nord, les provinces industrielles comme Bắc Ninh et Bắc Giang. C'est là où se trouvent les principales entreprises dont les usines travaillant surtout pour le sud-coréen Samsung. Donc le nombre de cas au Vietnam reste faible par rapport à d'autres pays, mais le système de santé au Vietnam ne pourrait pas supporter un nombre trop important de cas contaminés. C'est pour ça qu'ils ont pris des mesures très fortes.
Alors justement, lesquelles ? Faites-nous le détail de
donc,
ces musiques pour
ils ont fermé par exemple beaucoup d'usines, surtout dans les zones industrielles où se concentrent des investisseurs étrangers, malgré l'impact économique de ces mesures. Et Saigon, Ho Chi Minh Ville, une des plus grandes villes du pays, est en confinement depuis plus de 2 semaines. Les cafés, les restaurants, les salons de coiffure, le salon de massage sont fermés, ainsi que les sites touristiques ou religieux. Donc la meilleure façon pour le Vietnam de contenir l'épidémie, c'est d'accélérer la campagne de vaccination. Donc le Vietnam est un pays, un des pays les plus peuplés au monde avec près de 100 millions d'habitants. Mais jusqu'à maintenant, il a vacciné à peine plus d'un million de ses concitoyens.
Et pour se procurer suffisamment de doses, le Vietnam n'a pas hésité à approuver un vaccin chinois. Comment est-ce que la population réagit ?
Voilà, le Vietnam, les Vietnamiens, la plupart sont toujours très méfiants vis-à-vis des produits made in China, surtout les produits liés à la santé. Donc, et pourquoi approuver ce vaccin malgré cette méfiance ? Selon le chercheur Léon Yip de l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est, à Singapour, c'est plutôt un geste diplomatique à l'égard de la Chine. On l'écoute.
Quelles sont ses explications ?
Donc, il a dit que le Vietnam vient d'élire de nouveaux dirigeants. Les relations avec la Chine semblent en voie d'amélioration. Dans ce contexte, le Vietnam reçoit un vaccin de la Chine. Cela va contribuer à renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir. Cependant, nous n'excluons pas non plus qu'il ne s'agisse que d'un geste diplomatique. Comment le vaccin sera utilisé, on va voir en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Et la rédaction vietnamienne de RFI, bien évidemment, suit tout cela de très près. Théong Pham, merci à vous. Intéressons-nous maintenant à la lutte contre les fraudes menées par l'Union européenne avec le Parquet européen qui est dirigé depuis le 1er juin par une magistrate roumaine, Laura Codruța-Kövesi. Matei Vișniac, cette femme est devenue un vrai symbole de la lutte contre la corruption.
Oui, déjà, elle a dirigé en Roumanie le parquet anticorruption. Elle a réussi à faire tomber un grand nombre de responsables politiques corrompus. Donc Laura Codruța-Kövesi, comme on l'appelle en roumain, a vécu aussi des moments difficiles. Par exemple, en 2017, quand le chef du parti au pouvoir a essayé de changer les lois en sa faveur pour atténuer l'indépendance de la justice. Mais la mobilisation des Roumains a été alors cruciale pour que les fonctionnaires corrompus ne transforment pas la Roumanie dans un pays de mafiosi. Je cite ce que la magistrate roumaine a déclaré dans une interview dans la presse française. Les citoyens roumains ont compris alors l'importance de la lutte contre la corruption, l'importance de l'état de droit, et ont démontré qu'ils vivaient dans un pays honnête. Ce soutien populaire montrait que la société roumaine était sur le point de changer.
Alors le parquet européen qu'elle dirige désormais aura un rôle crucial dans la lutte contre la fraude, mais malgré le fait que plusieurs pays n'ont pas adhéré à cette institution.
Écoutons déjà ce que la magistrate roumaine dit en français, mais avec son accent roumain, pour définir le rôle du parquet européen.
Le parquet européen protégera de manière efficace les valeurs, les citoyens et les intérêts financiers de l'Union européenne.
Donc oui, c'est vrai, on peut regretter l'absence de la Hongrie, de la Pologne, de l'Irlande, de la Suède et du Danemark du dispositif, ce qui pourrait limiter la capacité d'action de la nouvelle institution. Mais Laura Codruța-Kövesi, la magistrate roumaine, sera à la tête d'une équipe de 22 procureurs européens, de 140 procureurs délégués. Environ 3000 affaires seront portées devant cette équipe uniquement pour des actes postérieurs à 2017. Et à l'avenir, le parquet s'attend à traiter environ 2000 affaires par an. Il se pourrait aussi que le nouveau plan de relance de l'économie européenne de 750 milliards d'euros suscite l'intérêt des personnes corrompues et que le parquet intervienne.
Merci Matei Vișniac de la rédaction roumaine domaine de RFI. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale. Bordeaux.